Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons entreprendre une méditation dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 36. On va lire à partir de ce passage. Alors, je répète, Luc, chapitre 24, verset 36. Un texte tout simple, mais qui va faire grandir notre foi, parce que c'est le but, hein, naturellement. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Voilà, nous allons nous arrêter tout simplement sur ce court passage, et je rappelle, eh bien, ce qui va faire l'objet de notre méditation, je rappelle tout simplement ce que Jésus dit, il leur montra ses mains. Ses mains. Et il ajoutera, voyez mes mains, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez. J'ajouterai, touchez-moi, voyez, et croyez, parce que il aura dit ces mots au départ, que ma paix soit avec vous. Et vous avez vu la suite? Ils ont été pris de frayeur et d'épouvante. Et ensuite, dans le reste de notre texte, quand il aura dit de contempler ses mains et ses pieds, il nous est ensuite dit comme ils étaient dans la joie. Comme quoi le cœur de l'homme est changeant, bien entendu. Ces quelques mots à l'adresse de ses disciples revêtent un caractère que je dirais à la fois exceptionnel et unique. Et ce côté exceptionnel, inédit, c'est parce qu'elles ont été prononcées finalement après la résurrection. Elles ont été données par un homme ressuscité. Le message que Jésus a voulu faire passer à ses amis, c'est celui-ci, qui est le message de tous les temps. Je suis bien vivant, puisque vous voyez mes mains, vous voyez mes pieds, vous voyez ce que c'est qu'un homme ressuscité, alors c'est bien moi. Vous remarquerez avec moi que Jésus n'a pas cherché à se faire reconnaître par les traits de son visage, les disciples les connaissaient tellement, ou quelque autre particularité physique, mais il a dit à ses compagnons de regarder ses mains. Ça peut être beau, des mains, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez des miennes. Mais ça peut être beau. C'est beau. Les mains d'un bébé, vous savez. Oh, je vous dis pas. Les mains d'un homme sont très importantes. Car par elle, par le toucher, par le sensitif, eh bien c'est par elle qu'il a contact avec le monde extérieur à lui-même. C'est vrai que ses autres sens peuvent faire défaut, mais toujours est-il qu'il nous reste encore nos mains. Et c'est important, les mains d'artistes, les mains d'un musicien, et puis de tous ceux qui s'en servent, par exemple, du chirurgien, par exemple, heureusement, hein, qu'il a exercé naturellement et bien son art, et qu'il apprend et qu'il sait faire les choses. Alors, l'homme par ses mains exprime ce qu'il ne veut ou ne peut pas dire par des mots. Ce qu'il ne peut pas exprimer, tout simplement avec le langage. Et par ses mains, l'homme témoigne de son adresse, de son habileté. Par ses mains aussi, il découvre sa vie cachée, sa vie morale. Eh oui, on parle bien des mains propres ou des mains sales. Ça, c'est le caractère moral des choses. Alors que peut-être elles peuvent être propres, mais elles sont sales quand même. Voilà. Donc, ce sont des petites images que je lance comme cela, pour nous montrer, pour en arriver justement à considérer pourquoi Jésus a dit « Voyez mes mains ». Les mains ont un langage, on appelle ça le langage des signes, qui en disent long sur la personnalité de chacun. Le premier signe de reconnaissance par lequel Jésus a voulu se montrer à ses disciples a été d'attirer leur attention sur ses mains. Mais pourquoi ses mains ? Il aurait pu dire « Mais souvenez-vous de mes paroles ? Souvenez-vous de ce que vous avez, eh bien, avec vos pieds, marché avec moi sur des chemins poussiéreux de la Palestine, nous avons fait tant de choses. » Mais ses mains en particulier. Alors, ces mains-là, les disciples les connaissaient trop bien pour les avoir si souvent vus faire du bien. Parce que Jésus, avec ses mains, a fait du bien. On peut faire du mal avec les mains, mais on peut faire du bien, si l'on veut, naturellement. Ces mains-là, ces mains calleuses, qui savaient gagner sa vie. Parce que on se souvient que Jésus, on le trouve dans les premiers moments de son existence, certainement adolescent et jeune homme, eh bien dans cette échoppe de Nazareth, et ils ont su ce que ça voulait dire, travailler de ses mains. Jésus, fils du charpentier Joseph. Ces mains-là, eh bien, tout simplement, les disciples les connaissaient parce que, avec ce signe de la main, s'entendre dire « Viens et suis-moi ». Je pense que quand on a vraiment apprécié quelqu'un, eh bien, on ne se contente pas de lui dire « Viens et suis-moi », on lui fait un petit signe de main. Et on comprend ce que ça veut dire, ce signe. Souvent un signe fraternel et amical. Ces mains-là, les disciples les connaissaient bien parce qu'ils les ont si souvent vus poser sur la tête des petits-enfants et ils les bénissaient. Ces mains-là, les disciples les connaissaient parce qu'ils l'ont si souvent vu aussi poser sur les épaules ou sur le corps des malades, des fiévreux, des paralytiques, et il l'a vu faire par milliers, dans des milliers de fois, dans des milliers de cas. Ces mains-là, les disciples connaissaient bien parce qu'ils les ont vus à l'œuvre le jour de la multiplication des pains. Vous savez, Jésus a levé les mains vers le ciel et il a dit « Père, je te bénis, je te rends grâce ». Ces mains-là et ces doigts qui écrivent un mystérieux message sur le sable. On n'a jamais su ce qui était écrit, mais moi je veux y voir le mot « grâce », parce que tout le reste, dans le détail de ce passage, eh bien, c'est ce qui ressort. Il écrit sur le sable, et ces mêmes mains vont empêcher, in extremis, d'autres mains meurtrières et criminelles, finalement, de lancer des pierres. Ces mains-là que connaissaient bien les disciples, eh bien, ce sont les mains qui, finalement, vont laver les pieds dans la dernière heure ou dans les dernières heures, les pieds des disciples. Ces mains-là, également, qui distribuent l'ultime repas de Sainte-Cène, et même à celui qui va être le traître. Ces mains-là, les disciples les ont bien connus parce qu'ils n'ont jamais voulu faire couler que de la joie et jamais des larmes. Sont des mains de bien, hommes de bien. Alors, nous voyons que c'est bien à cause de cela, et je le répète, c'est bien à cause de cela que Jésus a voulu se faire reconnaître, Jésus ressuscité se faire reconnaître à ses disciples, parce qu'il les connaissait, ses mains. Il connaissait bien autre chose, mais il connaissait ses mains. Le message, au travers les siècles, pour tous les hommes, n'a en rien changé. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Regardons à Jésus, car plus que tous les autres, ce sont celles qui donnent. Elles font du bien, mais les mains de Jésus donnent. Il est venu pour donner. Et de là, si nous savons regarder aux mains ouvertes, apprenons aussi à regarder à celui à qui ils appartiennent. C'est ce que Jésus nous lance comme message. Et c'est ce qu'il veut, donc nous voulons être convaincus. Et si nous pouvons rajouter, quand Jésus voyait mes mains, on pourrait rajouter ce qui nous est dit dans le livre des Hébreux. Quand nous lisons ces paroles, ayant les regards sur Jésus. Je paraphrase, ayons les regards sur les mains de Jésus. Ayons nos oreilles à l'écoute des paroles de Jésus, parce qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Nous avons tout à attendre, finalement, de Jésus, de ses mains, de sa parole, de ses mains. Alors, il dit, touchez et voyez. Dans l'usage des hommes, nous avons beaucoup de choses qui nous relient les uns aux autres. Il est normal de toucher la main de nos semblables. J'ai commencé à le faire ce matin. Donc, toucher la main de nos semblables pourrait exprimer nos salutations, notre gratitude, notre sympathie dans la peine. Et derrière les mains qui s'entrecroisent, il y a des cœurs, il y a un cœur qui échange. Dans l'usage que nous avons dans nos civilités, c'est ce que nous faisons, nous serrons la main. Et ça veut dire un message. Alors j'aimerais que nous allons passer par quelques exemples bibliques de ce que peuvent faire les mains de Dieu au travers des mains de Jésus, au travers des mains de Christ. La première chose, et je pense qu'elle est tout à fait logique, avant de parler de la rédemption, nous allons parler de la création. Et j'ai devant les yeux ces textes que je vais citer tout simplement. Les mains qui créent la vie et l'univers, ou qui créent l'univers et la vie. Écoutez ce que nous dit le psaume, chapitre 8 au verset 4. « Quand je contemple les cieux, l'homme s'adresse à Dieu, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Alors à ce moment-là, je t'adore Seigneur, quand je vois cette immensité. « Ouvrage de tes mains. » Est-ce que vous croyez que Dieu a des mains? Il doit en avoir, hein? Une droite, une gauche. La droite, c'est la puissance. La gauche, c'est le cœur. Et on voit les deux. On voit les deux se manifester naturellement. Alors, ouvrage de tes mains. Et je crois que, était-ce plus difficile, c'est la question que je me pose, était-ce plus difficile à Jésus de changer l'eau en vin ou de multiplier les pains que de faire ce que déjà le Créateur avait fait dans une dimension mais tellement immense. Eh oui, le Seigneur Jésus a fait ce qu'il avait vu déjà de son Père. Alors c'était vrai que c'était peut-être à l'état des réduits, mais l'état réduit de multiplier des pains ou de multiplier les pains ou de changer l'eau en vin, pour nous c'est déjà quelque chose d'étonnant, d'extraordinaire et de merveilleux naturellement. Eh oui Seigneur, Dieu a des mains. Les mains de Dieu, eh bien, elles s'appellent Jésus, tout simplement. Le miracle qui nous étonne, eh bien, c'est l'ordinaire de Dieu. Parce que nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui fait avec ses mains ce qu'il veut, mais ses mains sont toujours très près de son cœur, quoi qu'il en soit. Le deuxième point que nous avons pour illustrer un peu notre propos, c'est les mains qui guérissent. Sont les mains qui libèrent et les mains qui soulagent. Alors ça, lorsque nous voyons, nous rentrons de plein pied dans le Nouveau Testament, eh bien, on ne voit que ça, quelque part. Je prends l'exemple du lépreux. Il nous est dit que Jésus étendit sa main. Il aurait pu lui parler à distance. « Et toi l'homme lépreux là-bas, je voudrais te dire quelque chose, je voudrais te faire du bien. » Non, il nous est simplement dit qu'il s'est approché, chose redoutable. Il s'est approché, il a étendu sa main, et plus que d'étendre sa main, parce qu'il aurait pu peut-être étendre sa main de loin, mais il nous est simplement rappelé dans l'évangile de Marc qu'il l'a touché. Toucher un homme qui est malade, qui a la lèpre, ce n'est pas possible. Aussitôt, il fut guéri de sa lèpre. Être touché par la grâce de Dieu, par le Seigneur, dans sa puissance, dans son amour, touché de compassion pour nos souffrances, alors laissons-nous toucher. Il ne va pas le faire de loin. Ce n'est pas un message froid, distant, dédaigneux, mais c'est un message qui touche notre cœur, qui suscite de la foi et qui nous permet d'être réchauffés dans toutes nos froideurs, dans nos frimas, dans nos tremblements. C'est ça ce que Jésus a fait. Toucher même un contagieux, Jésus l'a fait. Et c'est là où la maladie, eh bien, n'a plus de pouvoir. Et cet homme va repartir purifié. La peau, comme l'histoire de Naaman, la peau aussi blanche qu'un petit enfant, tout simplement. Parce que l'œuvre de Dieu s'est faite à travers la main de Jésus. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a mandaté ses disciples. Évangile de Marc, chapitre 16, quand il leur a dit « Vous leur imposerez les mains ». C'est un geste. Il n'y a aucun pouvoir par lui-même. Ce n'est pas un opus operatum, mais c'est un ordre, c'est avant tout une démarche de foi, un signe de compassion. Vous leur imposerez les mains. Le Seigneur aurait pu nous dire autre chose. Les mains. Nous sommes aussi, par le temps qui passe, nous sommes aussi le prolongement des mains de Jésus, dans la foi. Devant Jésus, la maladie, nous le voyons pour le lépreux, surtout qu'elle avait un sens, une connotation très, 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 très spirituelle d'impureté et de péché. Alors nous voyons qu'à ce moment-là, eh bien, la maladie, la lèpre recule et la vie revient parce que ça ne peut pas cohabiter ensemble. C'est la vie, c'est la santé, c'est la restauration. L'homme est réhabilité à ce moment-là et la vie revient. C'est une forme de résurrection, hein. Ceux qui ont été malades très longtemps, d'une façon ou d'une autre, physiquement ou moralement, quand on retrouve un peu son énergie, ses forces, parce que les mains de Jésus nous sont venues sur nous, alors on revit. C'est une renaissance, c'est un printemps. Même quelquefois lorsque le printemps a du mal à s'installer. Mais néanmoins, il vient quand même. Et c'est ça le beau message de l'Évangile, le retour. Je crois qu'il y a un mot qui caractérise le message de la Bible, et particulièrement le Nouveau Testament, c'est le mot retour, repentance. On revient, tout simplement. Parce que l'amour a vaincu la crainte. L'amour de Jésus pour le lépreux a vaincu cette crainte naturelle humaine de ne pas avoir du commerce avec ces gens, parce que ce sont des gens contagieux, tout simplement. Le troisième aspect de ce message de Jésus, c'est que les mains qui offrent l'amour et la tendresse, sont ces mêmes mains qui sont à l'œuvre pour une humanité fatiguée, épuisée et lassée. Je ne vais pas vous citer Matthieu, chapitre 11, verset 28, vous le connaissez, il est inscrit, si vous ne l'avez pas, vous viendrez me voir après, mais toujours est-il que ce sont des mains qui sont remplies d'amour et de tendresse. Et écoutez le prophète Osée. Il dit ceci, et il parle de la part de Dieu, naturellement inspiré, « Ils n'ont pas vu que je les guérissais. » Aveugle. « Ils n'ont pas fait attention que je les guérissais. » Et avec cette suite, « Je les tirais avec des liens d'humanité et avec des cordages d'amour. » Et quand on prend une corde, on tire avec ses mains. Et voilà toute la démarche de compassion, de tendresse de Dieu, devant un peuple qui est sourd, un peuple qui est aveugle, un peuple qui ne voit pas, un peuple qui ne veut pas voir. Hein. Et Dieu dit, bien maintenant, ils n'ont pas vu, c'est vrai, mais je les tirais quand même avec des liens d'amour et de compassion, des liens d'humanité. Au naufragé, à celui qui se noie, à celui qui est en péril, le premier geste est celui de lui tendre la main. On lui tend la main, on essaie de se rapprocher le plus possible, naturellement, pour l'atteindre. Et ça, c'est un signe d'intérêt pour quelqu'un. C'est un signe qu'on lui veut du bien, tout simplement. Que ce soit à travers une corde ou à travers, je ne sais quoi, une rame ou autre chose, mais on tend la main. Et ça, il y a une belle image. Et c'est cette image de Dieu qui nous est donnée, qui nous est rappelée, parce que nous étions en naufrage. Nous étions des naufragés, nous étions même moribonds. Et un jour, c'est une manière, c'est une pensée de l'esprit. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons senti un jour la main de Dieu prendre la nôtre. Et il nous a tiré à lui, tout doucement. Hein. Il ne nous a pas tiré à « Eh, viens ici » et puis voilà. Non, il l'a fait avec la délicatesse qui a été finalement la construction spirituelle de notre vie. Il ne faut pas tirer trop fort. Hein. Non, il nous a retirés. On le chante très souvent. Voilà. Un autre point que j'aimerais justement illustrer autour de ces mains de Jésus, les mains, c'est un signe magnifique, c'est un gage d'alliance. Eh oui. Un gage d'alliance, parce que deux mains qui s'unissent pour partager et vivre une même aventure, est-ce que c'est encore beau aujourd'hui? Je dis bien encore parce que je sais que tout est dégradé, tout est déprécié, tout a été souillé, tout a été galvaudé. Mais c'est vrai, et ça reste beau. Voilà. Cette alliance entre un jeune homme et une jeune fille, entre un homme et une femme, c'est quelque chose de beau. Je ne vais pas vous dire le contraire, vous en doutez, on fait des mariages. Eh oui. C'est cette complicité C'est cet amour, c'est ce sentiment pour l'un, on vit pour l'autre. Et c'est un échange. Et je crois que rien n'égale l'aventure que celle de chaque homme, pardon, peut faire lorsqu'il marche main dans la main avec son Dieu. Parce que tout ce que nous pouvons avoir d'amour, de sentiment pour les autres, pour l'autre, lui ou elle, ça commence déjà à marcher main dans la main avec notre Dieu. Et ça, c'est la gage de la solidité quand même, avant tout, finalement, de notre couple et de tout le reste. Et l'alliance, on la met où? Aux pieds? Aux oreilles? Dans le nez? Oui, on la met à la main. Et mon alter ego à la même, voilà, c'est ça. Alors on ne se reconnaît pas aux alliances. L'alliance est le signe qui nous réunit et qui construit, qui nous donne finalement de vouloir vivre, de vouloir et de faire tous les efforts, parce que c'est ça le mariage. Hein, c'est pas toujours, c'est certainement pas l'égoïsme, mais de vouloir aller vers l'autre, de vouloir construire avec l'autre, et de voir ce qu'il y a toujours et que nous puissions toujours être émerveillés par l'autre. Hein. Alors c'est parce qu'il y a une alliance. Mais cette alliance, elle va tenir, elle va aller jusqu'au bout, parce que j'ai aussi cette alliance entre mon Dieu et moi. Et quand on est un couple chrétien, eh bien nous ne sommes pas deux, nous sommes trois. Vous connaissez l'histoire de la corde à trois fils qui ne seront pas facilement. Alors c'est ça. Nous avons eu un beau texte de mariage. Vous voulez savoir? Non, vous n'êtes pas pressé. Bon, si vous voulez savoir quand même, vous n'étiez pas, mais bon, je vais vous le dire. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. C'est beau, hein? La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Alors moi, je souhaite que tous les couples, que tous les maris et les femmes puissent véritablement dire, eh bien, vraiment, tu déploies sur nous ta bannière d'amour. Parce que nous voulons aller jusqu'au bout avec ta grâce. Avec ta grâce, Seigneur. Il y a tant de choses compliquées dans la vie. Mais avec ta grâce, les mains qui s'unissent. Écoutez, le prophète Ésaïe nous dit ceci, toujours inspiré. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, et je te garderai. » Ouais, ça c'est formidable. C'est extraordinaire de savoir qu'il nous a dit qu'il nous prendrait par la main et il nous garderait, parce qu'il y a tellement de dangers dans la vie. Tellement de choses, tellement de périls, tellement de tentations, tellement d'occasions de sombrer. Je te prendrai, je te garderai. Merci Seigneur de ce que je ne veux jamais oublier que tu as fait la promesse que tu me garderais. Parce que moi je ne suis pas capable de me garder tout seul. Un autre point. Les mains de Dieu sont le meilleur gage de soutien, de protection et de sécurité face aux terribles incertitudes, aux menaces, à tous les dangers qui guettent. Rien n'inspire autant le calme et la paix que de savoir que Dieu nous tient fermement. Dieu, ce n'est pas une main de fer. Au cœur de la main de Dieu, il y a un cœur. Moi, je veux le comprendre comme ça. Il nous aime, et la règle, c'est l'amour. C'est la compassion. Mais est-ce que nous voulons encore nous laisser aimer? Est-ce que nous voulons recevoir encore la chaleur de cette main remplie de compassion et de tendresse sur nous? Est-ce que nous voulons nous laisser aimer par Dieu? On se débat quelquefois. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Est-ce que nous voulons nous laisser aimer par celui que Dieu m'a donné ou par celle qu'il m'a donnée? Se laisser aimer. On appelle l'amour, on demande l'amour. Mais est-ce que véritablement, on sait ce que c'est que l'amour? Alors, il me tient fermement, il me l'a dit. Alors, fini les inquiétudes, comme on l'a entendu dans une louange tout à l'heure. Fini les larmoyants, l'apitoiement sur soi, fini l'angoisse. Toujours le prophète Ésaïe, il dit ceci, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, je te couvre. » Vous connaissez? Oui, vous connaissez Ésaïe, mais vous ne connaissez pas le texte que je vous citais. Il n'y en a pas beaucoup, c'est un petit livre, Ésaïe. Ça va? Exact. Voilà, quelqu'un qui connaît bien sa Bible. Mais vous la connaissez aussi. Écoutez, je te couvre de l'ombre de ma main. Ouais, c'est beau, hein? Et quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. L'ombre de ma main, je ne sais pas, c'est... Non. Ah oui. D'accord. L'ombre de ma main. Nous sommes à l'abri, à l'ombre, protégés, garantis, en sécurité. C'est-à-dire à l'ombre, à l'écart du mal, de la souffrance. Et ailleurs, résonne à la fin de notre Bible ce texte, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous abandonner? Nous, nous pouvons le faire. Mais lui, jamais. Tant que j'ai foi en lui, tant que j'ai mis ma confiance en lui, quels que soient parfois eh bien, mes méandres, malheureusement, parce que je suis un pauvre homme, mais je sais que si je reviens à lui et que je lui fais confiance, eh bien, il me reprendra. Est-ce que quand vous avez des enfants qui ont fait des bêtises, vous les mettez à la porte en disant « Je ne veux plus te voir, c'est terminé, je ne te reverrai jamais. » Non. Eh bien alors, si nous, nous sommes capables encore de reprendre nos enfants, et nous allons en parler sur un personnage qui arrive, bientôt, nous, alors qu'à combien plus forte raison, si nous, nous avons un cœur dur, parfois un cœur qui n'est pas toujours très juste, à combien plus forte raison notre Père, où il nous est dit qu'il est parfait, alors à ce moment-là, le fera-t-il pour nous, chacun d'entre nous? On a vu des gens qui sont partis, des chrétiens qui sont partis vraiment de travers. Et ils ont cru, ils sont revenus parce qu'ils ont cru en demandant pardon à Dieu que Dieu pouvait les pardonner. Et ils ont reçu le pardon de Dieu et après je peux vous dire qu'ils ont poussé d'une autre manière. Ils ont attrapé des leçons. Hein. Ils ont pris des leçons magistrales, mais après ils n'ont plus été les mêmes hommes. Ils ont été transformés parce qu'ils croyaient qu'en revenant à l'ombre de la main du Seigneur, alors que finalement eh bien, ils pouvaient repartir. C'est la grâce rétablissante, elle existe. Je la crois pour tout le monde, et avant tout pour moi-même. Les mains de Dieu nous assurent de son indéfectible fidélité, quoi qu'il arrive, quel que soit l'ennemi redouté. Et quand je parle à l'ennemi redouté, c'est peut-être, c'est vrai, le diable. L'ennemi redouté, c'est moi-même. Et puis, il y a tant d'autres choses. Jésus, dans la parabole du bon berger, nous donne cette autre promesse. Il nous dit « Nul ne les ravira de ma main. » Elle est solide, la main du Seigneur. Je peux vous dire que cette main-là, c'est une main qui s'oppose à tout l'enfer, à tout cet épouvantable monde. Et il est comme ça, et c'est terminé. Hein. Les mains qui ont été percées, le diable, il les connaît. Hein. Il ne va pas plus loin. C'est un rejet pour le diable. Mais c'est un accueil pour tous les hommes. C'est pourquoi les mains ont été crucifiées comme ça, je suppose. Hein, pour que tout le monde voit les clous. Et les bras écartés pour que le monde entier le voit. Et on l'a mis sur une colline pour que ça se voit encore davantage. C'est un message tout ça. Alors, nul ne les ravira de ma main. Il n'existe aucun pouvoir suffisant pour briser l'engagement de Dieu à notre égard. Alors pourquoi avoir peur lorsque nous lisons cette belle parole et je la relis à dessein pour que vraiment cette parole nous fasse du bien, ce ne soit pas seulement un commentaire d'un homme ou d'un prédicateur, mais ce soit aussi la parole de Dieu. Il est dit, mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Et je vais un peu plus loin au verset 38, car j'ai l'assurance, dira Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est Seigneur, il est Sauveur, notre Seigneur. Encore un peu plus loin, brièvement. Les mains de Dieu sont une invitation à la foi. Alors il y a la parole de Dieu qui crée la foi dans notre cœur. Mais je dis, et je prolonge, que ces mains divines sont une invitation à la foi, c'est-à-dire à lui faire complètement et totalement confiance. Toujours le prophète Ésaïe, il est prolixe, hein, il en a dit des choses inspirées hein, par le Seigneur. Il dit ceci, Éternel, ta main est puissante, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais pour nous. Alors, quand on est en train de vouloir faire à la place de Dieu, ben Dieu ne fait pas. Mais si par la foi, eh bien je laisse faire le Seigneur, alors à ce moment-là, moi je reste dans le repos de la foi. Je suis tranquille. Je ne dors pas, hein, mais je suis tranquille, je suis en paix. Et parce que le Seigneur m'a mis dans la paix, je peux l'écouter davantage et encore lui obéir que quand je suis dans l'agitation, parce que j'écoute rien. Je suis tellement angoissé, tellement stressé que j'écoute rien. Mais là, il m'a mis dans cette position. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et quand on est assis, on est au repos. D'accord ? Ça va, vous fatiguez pas trop ce matin ? Hein ? Vous êtes assis et vous vous reposez en Jésus-Christ et votre véritable identité, votre identité physique est là sur ce beau magnifique carrelage. Vous avez remarqué, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est tout neuf. Et mais en tous les cas, votre identité réelle, morale, spirituelle, vous savez où elle est ? Elle est en haut. Je suis déjà en haut, en Jésus-Christ. Et là, je vais vivre quelque chose. Parce que quand je suis en haut, je peux regarder en bas. Si je regarde en bas en disant « Mais oh, qu'est-ce que le ciel est beau ! Je voudrais tellement aller au ciel !» Non, maintenant la version elle est tout autre. Je suis en haut et je regarde la terre. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours très très beau sur la terre. Mais je dis « Merci Seigneur de m'avoir délivré du bas pour m'avoir fait monter en haut. » Et ça doit être l'état d'esprit des chrétiens. Un esprit positif, un esprit joyeux, un esprit heureux. Alors faites-moi un sourire quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors, je continue. Non, mais c'est vrai qu'il y a des petites réalités qui sont passées comme ça, hein, vous comprenez ? Donc, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Dieu reste le Dieu de l'impossible, de tout ce que nous ne pouvons pas faire. Et il nous répond, quand nous doutons, lorsque nous sommes devant une Jéricho barricadée et fermée, lorsque nous sommes devant une mer rouge, qu'est-ce qu'il nous dit ? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel ? Alors tu connais ta Bible ou quoi ? Tu doutes de ce que je suis capable de faire pour toi ? Mais ouvre ton cœur, regarde mes mains. Elles sont capables de faire des choses merveilleuses et extraordinaires. Écoute ma parole, regarde mes mains et tu vas voir. Tu vas voir. Encore un autre aspect, les mains de Dieu évoquent la patience avec laquelle il attend le retour de celui qui est égaré. De celui qui marche à côté du chemin, du pécheur. Parce que ses mains nous parlent de pardon. Enfin, d'abord, elles nous parlent d'accueil et ensuite de pardon. Il n'y aurait pas l'évangile s'il n'y avait pas le pardon. Le pardon, c'est le socle. Ouais, c'est le socle. Vous connaissez ce garçon qui dit à un moment donné, j'en ai par-dessus la tête la maison de mon père. Vous vous rendez compte ? Moi, je suis malheureux d'être heureux. Oh, c'est quand même quelque chose, ça. Ah oui, malheureux d'être heureux. Il y en a tant qui voudraient être heureux, parce qu'ils sont vraiment malheureux. Mais lui, c'est un peu le contraire. Alors, dès qu'il a l'occasion, il s'en va, et il s'en va et revient. Mais entre le moment de son départ et le moment de son retour, il s'en est passé des choses. Il n'avait pas vu son père, il n'avait pas entendu, il n'avait pas vu ses mains. Il n'avait pas compris que dans ses mains-là, les mains de son père, il y avait quelque chose de formidable. Alors quand il revient, il lui est simplement rappelé d'une manière très lapidaire dans ce texte, comme il était encore loin, comme le fils perdu était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et à ce moment-là, quand il a reconnu que c'était son fils, hein, il n'était certainement pas en bel état, mais il l'a reconnu quand même, alors il a couru se jeter à son cou et il l'a embrassé. Qu'est-ce que l'on fait quand on embrasse des gens ? Enfin, pas toujours, mais quand même, quand on a un fils qui revient, quand on a une relation, alors à ce moment-là, on le prend dans ses bras, on le prend dans ses mains et on le serre très fort. Et ça, le fait de se sentir serré, de se sentir vraiment entouré comme cela, et on sent les mains. Alors après, on peut embrasser. Vous ne trouvez pas que c'est beau ? Bon, ça vous laisse dubitatif. Hein. Moi, pour moi, je me suis... Ah non, je pensais quelque chose que ça... Ça vous fait quelque chose, alors ? C'est vrai ? Ben oui, amen. Non, non, mais c'est vrai, il y a des belles images derrière cela. Quelque chose de formidable. Quand on n'a pas vu un ami ou une amie depuis quelque temps, ben qu'est-ce que vous voulez ? On s'embrasse. Et quand vous allez emmener quelqu'un à l'aéroport que vous n'allez pas revoir pendant plusieurs années, ouh, c'est pathétique. Un phare de train qui s'en va à l'horizon. Oh, oh, c'est terrible. Ouais, mais tout ça, c'est le sentiment humain qui est derrière. Alors, il a pris pris, il s'est jeté à son cou, il l'a embrassé. Et pour sauver l'homme pécheur, Dieu a fait le premier geste. Il a tendu les mains. Et ça, c'est un signe d'appel. C'est un signe où l'on dit maintenant, tu peux revenir. Voilà, c'est fini maintenant tout ça. Le passé, c'est le passé, c'est fini. Premier geste, il le prend par la main pour le relever du mal. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le père a dit cette parole à ses serviteurs. Mettez-lui un anneau au doigt. Vous allez lui prendre la main et dans le doigt distingué, vous allez lui mettre un anneau. Un signe, encore, d'alliance. Eh oui, ça c'est un signe. Voilà. Vous savez qu'il y a une expression dans notre vocabulaire français qui nous dit « allez demander la main à une jeune fille ». Bon, heureusement qu'on n'a pas que la main. C'est ce que j'ai fait un jour à mon beau-père. Ouais, je lui ai demandé la main de sa fille. J'ai été surpris, il me l'a donnée tout entière. Heureusement. C'est un petit clin d'œil. Il n'y a pas d'autre preuve d'alliance, de réconciliation, nous le voyons dans l'histoire du Fils prodigue, que celle qui est scellée par l'anneau de l'alliance porté à une main. J'y reviens. Des mains ennemies qui s'unissent pour faire la paix est un miracle de la grâce. On se donne la main. On dit maintenant, ça y est, on ne fait plus la guerre. On ne fait plus la guerre. Parce que quand on est contre quelqu'un, eh bien, on ne va pas lui serrer la main. On évite de lui serrer la main, on change de trottoir. La miséricorde, mes frères et sœurs, dans l'Évangile apparaît. Et elle nous laisse ce message extraordinaire, c'est que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Dixit, l'épître de Jacques, elle triomphe du jugement. Je vais bientôt terminer. Encore un autre point, le salut de l'homme n'est rendu possible qu'à cause des mains percées de Jésus à la croix. Dans le psaume 22, c'est un psaume de David, inspiré sur les temps qui allaient venir, les temps de l'Évangile, l'apparition du Messie. Il est dit ceci, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Dans Isaïe, le prophète ajoutera ceci, « Il était blessé pour nos péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Quelle magnifique et tragique préfiguration de ce qui allait se passer sur la terre pour notre salut. Parce que les mains de Jésus, je voudrais le signaler, ne sont pas comme les nôtres. Oui, il y avait certainement 5 phalanges, mais elles ne sont pas du tout comme les nôtres. Les nôtres sont souillées, trop souvent. Mais les mains de Jésus sont indemnes de péché. Elles sont pures. Et c'est pourquoi il a été dit dans le livre de Job, au chapitre 22, un texte que j'aime beaucoup, au verset 30, il nous est dit qu'en parlant de Jésus, celui qui devait venir, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains, Seigneur, pas des miennes. D'aucun homme, d'aucune religion, d'aucune philosophie, mais à la pureté de tes mains, puisque c'est prophétique. Jésus ne méritait pas la mort, mais ses mains ont été clouées pour que moi, mes mains soient lavées, purifiées, dégagées. Et enfin, à l'heure ultime, en toute sérénité, je dis bien et j'appuie sur le mot sérénité, faisons comme Jésus a fait quand il a dit ces paroles, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le monde sensitif religieux, le monde de l'âme, dit toujours, il a rendu l'âme à Dieu. Pas biblique. Rien à faire. Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Notre vie spirituelle, celle que nous aurons de l'autre côté, est-ce que ce serait une dimension de l'âme? Ce serait une dimension de l'esprit. Quand il nous est parlé de la vie, il nous est parlé de la vie éternelle, la vie spirituelle, éternelle. Alors bien sûr que l'homme aura, et ça je ne pourrais pas vous l'expliquer, cette dimension dans sa personnalité que nous sommes en train de faire et préparer pour la dimension céleste. Mais une chose qui est certaine, ce sera une dimension spirituelle. Je remets en effet mon esprit entre tes mains, Seigneur. Être entre les mains de Dieu est le seul refuge pour la vie présente et la vie à venir. C'est abandonner notre vie, ce que nous possédons, ce que nous aimons sans rien garder, car déjà les mains de Dieu sont tendues pour nous donner ce qu'il y aura de meilleur et ce qu'il y aura d'éternel. Et voilà comment les choses, nous pouvons les comprendre. C'est le jour de Pâques aujourd'hui. On n'a parlé que d'un aspect. C'est vrai qu'il pourrait passer peut-être pour insignifiant, qu'il pourrait passer comme inaperçu. Mais pourtant, à travers tout cela, il y a un message pour chacun d'entre nous. Un message d'amour, un message de foi, un message d'espérance, un message de résurrection. Voyez mes mains, un esprit n'a ni chair ni os. Mais voyez, je suis vivant, je suis ressuscité, je suis vivant. Nous avons véritablement passé par la conversion, par la repentance et la nouvelle naissance, et nous sommes vivants et nous sommes ressuscités avec Christ. Et ça, il faut le dire, on l'a chanté tout à l'heure, quand on a appris ce dernier petit cœur, hein, que Christ est ressuscité. Il a triomphé de toutes choses. Alors Jésus avait raison quand il disait, « Voyez mes mains, c'est bien moi. » C'est bien moi. Et je finis par... Toujours, je ne me retiens pas de vous la citer. Ésaïe, chapitre 49, verset 16. Prenez donc Ésaïe, je termine. Ésaïe 49, verset 16. Ça va ? Voilà ce que j'ai. Dieu dit à tous ceux qui espèrent en lui, qui mettent leur foi en lui, qui se sont donnés à lui, la première phrase, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Alors on peut écrire, et ça s'efface. Si on écrit dans le sable, la durée de vie de notre écriture va être très, très courte. On peut écrire au crayon de bois, ça se gomme. On peut écrire avec un feutre, de l'encre, ça disparaîtra. Mais là, il est dit, « Je t'ai gravé. » C'est marqué dans la pierre. Il y a, en matière d'archéologie, des gravures qui ont traversé toute l'histoire de l'homme, et elles sont encore là présentes. « Je t'ai gravé sur mes mains. » Vous savez, il y avait un trou au cœur des mains de Jésus. Et dans ce trou, il y a notre nom d'inscrit. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Et réjouissons-nous. On a loué le Seigneur, on l'a béni, mais on va le faire 10 fois plus maintenant. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Je demande à Monsieur Sage s'il veut simplement, eh bien, invoquer le nom du Seigneur et que vraiment la paix et la joie soient sur l'Église, dans nos cœurs, pour chacun d'entre nous, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Merci.